Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Ce grand merci, ces applaudissements que vous entendez désormais tous les matins en ouverture de votre émission Priorité Santé. Merci aux soignants, médecins, infirmières. Merci aux employés des commerces, des entreprises de nettoyage, de transport, celles et ceux qui travaillent pour la communauté. Merci à toutes et à tous. Merci aux animatrices, éducateurs, aides-soignants, personnel d'encadrement qui reste également aux côtés des plus vulnérables d'entre nous, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, privées de contact avec l'extérieur, avec leur famille, depuis le confinement et même pour certains depuis plus longtemps, pensionnaires des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On en compte 7000 en France, résidences autonomie, unités de soins longue durée, maisons de retraite, plus de 10 000 unités d'accueil au total. La pandémie actuelle plonge le pays dans une crise sanitaire sans précédent. Mais aux défis qui jouent chaque jour dans les hôpitaux, les services d'urgence, de réanimation, s'ajoute un enjeu majeur de société qui va peser lourd dans le bilan de cette épidémie. L'impact de l'isolement, du choc ressenti par les personnes fragiles pour qui les rituels sont essentiels à l'équilibre, au bien-être. Impact aussi pour celles et ceux qui prennent soin de ces personnes vulnérables. Mobilisés, fatigués, parfois sous-équipés, pour certains déjà meurtris d'avoir perdu des pensionnaires. Le sort des anciens se joue dans certains établissements à huis clos. Et la Fédération hospitalière de France s'alarme. On manque de chiffres, on manque d'indications. Uniquement en Île-de-France, le Covid-19 aurait franchi déjà les portes de 150 EHPAD. Et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, s'est exprimé hier sur ce sujet, reconnaissant une zone d'ombre, faute de dépistage systématique dans ces structures collectives pour les personnes âgées. Il a en tout cas indiqué qu'à compter de la semaine prochaine, les décès dans les EHPAD seront recensés et centralisés. Au cours de cette émission, on va donner la parole à des gériatres. À vous, docteur Frédéric Béard, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Gériatre nutritionniste, chef de service à l'hôpital Dupuytren de Dravel dans l'Essonne. Et à vous, docteur Gilles Berru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de gériatrie, de médecine gériatrique, chef du pôle gériatrie au CHU de Nantes. Également avec nous, Marion, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes animatrice dans un EHPAD à Bonneuil-sur-Marne en région parisienne. Témoignage aussi d'un fils, le docteur Vincent Ouldaoudia, dont la maman qui est âgée de 98 ans vit en EHPAD. Et puis, nous parlerons également des structures d'accueil pour personnes en situation de handicap avec Mathieu Lardjan, directeur du FAM Foyer d'accueil médicalisé Simone Veil à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Tous ces invités, on les retrouve dans quelques minutes, mais nous allons donner la parole à un auditeur pour commencer, pour témoigner, faire passer un message aussi. Cet auditeur, c'est vous, Pape, bonjour.
Bonjour, bien.
Vous êtes en ligne de Baguineda, c'est à une trentaine de kilomètres de Bamako au Mali, et votre pays, le Mali, compte donc officiellement depuis hier des premiers cas de Covid-19, deux cas. Pape, comment est-ce que vous avez réagi à cette nouvelle ?
Bonjour, merci de m'avoir invité sur l'émission Priorité Santé. En ce qui concerne mon pays, le Mali, nous avons quand même résisté assez longtemps face à l'entrée du virus. Mais malheureusement, hier, le gouvernement a annoncé officiellement que des cas ont été confirmés.
Absolument, des cas confirmés hier. Quand vous avez appris ça, comment les gens ont réagi autour de vous ?
Ouais, c'est inquiétant. L'inquiétude commence à cerner partout. Franchement, ouais.
Est-ce que vous avez changé certaines de vos habitudes, Pape, depuis le début de l'épidémie ?
Moi, en ce qui me concerne personnellement, depuis que j'ai appris le virus au Sénégal, j'ai pris des décisions personnelles en me procurant des gels anti-hydroalcooliques et le port des masques. Et j'avais commencé personnellement à sensibiliser mon environnement, mais c'est vraiment compliqué.
Comment est-ce qu'ils réagissent justement autour de vous ? Qu'est-ce qu'ils répondent quand vous dites « faites attention, limitez les contacts », ils vous disent quoi ?
La majorité prend un copie rigolo, ils croient pas. Ils disent que nous avons déjà des maladies ici. C'est une maladie qui n'est pas faite pour l'Afrique. Et face au climat, ça ne peut pas résister. Et quand tu portes des masques et tu dis que tu ne peux pas tendre ta main à quelqu'un, ils te prennent comme rigolo. Ouais.
Ils te prennent pour rigolo, ça veut dire qu'ils ne vous prennent pas au sérieux. Alors, est-ce que vous trouvez les mots pour leur dire? Est-ce que vous leur dites, écoutez ce que dit le gouvernement, écoutez pourquoi pas priorité santé? En tout cas, faites des choses pour vous informer, pour vous chasser toutes ces fausses croyances.
Oui, en tout cas, on résiste beaucoup à faire des sensibilisations, mais c'est pas vraiment facile. Parce que quand tu dis à quelqu'un de ne pas partager les verres d'été des moyens communs, ou de ne pas prendre les mêmes bols pour prendre de l'eau, c'est vraiment compliqué. Mais quand même, on fait des efforts de sensibilisation. Mais c'était quand même, arrive à comprendre. Mais la majorité résiste jusqu'à présent. Parce que bien avant l'apparition du virus, le gouvernement avait pris certaines mesures pour interdire les regroupements en ce qui concerne les baptêmes, les mariages. Mais jusque-là, beaucoup résistent, ils croient pas. C'est vraiment pas facile.
Et Pape,
il y a des efforts à faire. Oui.
Pape, votre langue, c'est le Bambara?
Oui, le Bambara.
Est-ce que vous voulez lancer un appel en Bambara à nos auditeurs pour leur dire justement d'avoir ces gestes barrières, de prendre leur distance? Je vous donne la parole, 30 secondes en Bambara. Vous me promettez que vous dites pas de bêtises parce que je comprends pas. Mais allez-y, lancez votre message.
D'accord, Anish Roma.
Allez-y.
En Bambara, Marion, vraiment, Madame Mamga Fofande, qui est donc Betty Koloshala, par exemple, il y a encore
Et tout ça, ça veut dire quoi? Vous avez dit quoi? Les gestes barrières, le lavage des mains, ne pas partager les verres?
Ouais, je les ai dit que vraiment, c'est que la maladie dont les gens parlent aujourd'hui, c'est vraiment une réalité et la maladie existe ici. Et vraiment, il est temps que les gens respectent les mesures qui ont été recommandées par le gouvernement, c'est-à-dire de limiter les contacts, d'éviter de partager les instruments de manière collective, etc.
On vous remercie beaucoup, Pape. J'ajoute que un couvre-feu nocturne a été décrété depuis hier dans tout le pays, dans tout le Mali par le président. État d'urgence sanitaire, fermeture des frontières terrestres, couvre-feu, mais maintien des élections législatives pour dimanche. Et puis bien sûr, chaque jour, nous donnerons la parole à un auditeur. Si vous souhaitez raconter comment ça s'organise dans votre pays, laissez-nous un message sur la page Facebook de l'émission.
RFI.
Priorité santé, personnes vulnérables en situation de confinement. On va bien sûr revenir sur l'impact de ces visites suspendues pour une durée indéterminée. L'isolement dans ces circonstances pour des populations particulièrement vulnérables prend une dimension encore plus complexe et peut-être simplement vitale. Car vraiment, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, docteur Frédéric Béard, on souligne la grande vulnérabilité des personnes âgées. Cette vulnérabilité, elle a été démontrée dans les chiffres, même si on ne sait pas forcément pourquoi.
Oui, on sait un petit peu pourquoi, parce qu'on a des personnes âgées qui ont plus de comorbidités et qui ont des insuffisances cardiaques, des insuffisances rénales, des insuffisances respiratoires. On sait que donc c'est des patients qui sont plus vulnérables et donc ils sont effectivement plus touchés. Donc il y a beaucoup plus de cas graves parmi les personnes âgées. On sait aussi, mais ça c'est un petit peu plus complexe, mais on sait aussi qu'il y a des patients âgés qui ont tellement de comorbidités qu'on sait qu'on ne pourra de toute façon pas vraiment leur imposer un séjour en réanimation. On sait que, et donc on sait qu'on pourra avoir du mal à les sauver. Voilà.
Docteur,
c'est un peu difficile.
C'est difficile. Docteur Gilles Berru, justement pour ces personnes âgées, on a observé aussi avec quelques semaines de recul qu'il y avait des signes cliniques, des symptômes qui sont parfois différents, qui sont parfois singuliers.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que les formes digestives isolées sont très fréquentes. C'est-à-dire que parfois, la seule manifestation, c'est une diarrhée, des douleurs abdominales, sans véritablement de signe respiratoire. Et donc, il faut, dans ces cas-là, évidemment, être vigilant, d'abord sur l'évolution, et aussi, évidemment, sur les produits biologiques les risques de contamination.
Notamment par les selles. Est-ce que ça veut dire, docteur Gilles Berru, qu'avec ce signe digestif, le pronostic vital de la personne âgée peut être engagé?
Non. C'est l'atteinte respiratoire qui engage le pronostic vital, ça c'est très clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle surtout des problèmes respiratoires et pas trop des autres signes. Il a été rapporté par M. Salomon la perte du goût et de l'odorat comme signe annonciateur, mais c'est évidemment pas grave. Mmh. Les signes digestifs sont assez fréquents en gériatrie et quelquefois on peut les banaliser et ne pas les attribuer à la maladie quand il n'y a pas de signe respiratoire associé.
Le docteur Béard parlait tout à l'heure des comorbidités. Il y a en particulier, docteur Gilles Berru, l'insuffisance cardiaque.
Il y a, oui, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, les maladies chroniques comme le diabète qui fragilisent les artères, voilà. Donc, c'est vrai que les personnes âgées, par la durée de leur vie, ont eu le temps de développer plusieurs maladies chroniques et donc ont une situation plus fragile. Et le docteur Béat a tout à fait raison de souligner que la réanimation est un stress très important, même pour des sujets jeunes. Et donc, on se pose des questions quand une personne très âgée, très faible, a des signes qui pourraient nécessiter la réanimation, du bénéfice et du risque. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus considérer que ne pas aller en réanimation, c'est parce qu'on n'a pas envie de traiter les gens, mais c'est parce que les exposer à un risque qui est supplémentaire ou plus grave que la maladie, n'est pas une bonne attitude.
Alors, le pic de l'épidémie n'est toujours pas atteint en France. Pourtant, la liste des établissements touchés est en train de s'allonger. 150 EHPAD en Île-de-France, dont les pensionnaires sont positifs au Covid-19. Des décès nombreux dans le centre de Paris, dans les Vosges, en Haute-Savoie, en Haute-Marne, dans le Doubs. On informe, on sensibilise. On essaye de se garder d'un quelconque affolement dans cette émission, mais docteur Frédéric Béard, il ne faut pas se voiler la face. La situation aujourd'hui est très difficile.
Actuellement, on en est un petit peu qu'au début, et ça on le sait, puisqu'on voit le nombre de cas s'accélérer de jour en jour. Enfin, tous les jours, on a de nouveaux cas qui surviennent dans nos lits. Et donc, on voit une ascension exponentielle. Donc, on est effectivement dans notre hôpital, mais comme partout ailleurs, tout à fait en ligne avec les chiffres nationaux, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation exponentielle. On a du mal à voir comment ça peut s'interrompre, ou en tout cas diminuer. Donc il faut absolument redire que les règles vraiment de distanciation sont les plus importantes pour l'instant.
Docteur Gilles Berru, en cas de contamination en EHPAD, jusqu'à présent, après 2 tests positifs, les autres patients ne sont pas dépistés. C'est pour l'instant la règle. Dans ces conditions, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir juger l'impact du Covid-19 sur la population de ces établissements de soins?
Alors, c'est une question un peu complexe. Jusqu'ici, on n'a pas utilisé les tests pour faire le diagnostic. On a utilisé les tests pour voir la progression géographique de la maladie. C'est pour ça qu'on ne le faisait pas à tous. Faire le diagnostic d'une maladie quand on n'a pas de traitement spécifique n'est pas forcément une obligation. Sachant que, et je pense que notre interlocuteur africain tout à l'heure l'a très bien dit, l'essentiel, mais c'est vraiment capital, c'est l'isolement, les gestes barrières, le confinement.
La prévention.
En fait, les premiers sites d'infection dans l'Oise et en Rhône-Alpes étaient peu contagieux. Et à partir de la réunion religieuse dans l'Est,
à Mulhouse et du
foyer en Bretagne, on a vu une modification des caractéristiques de contamination. Aujourd'hui, c'est un virus qui est très, très virulent, qui contamine à toute vitesse. Nous avons eu un EHPAD, par exemple, il y a un fils qui était allé voir sa mère, et le fils était de la région de Vannes. Il a été voir sa mère pendant une heure, il est reparti, et 10 jours après, eh bien pratiquement tous les résidents sont infectés. Parce que l'établissement n'avait pas mis de confinement et de gestes barrières très, très forts.
Donc il y a des mesures à prendre avec justement le confinement, le bouleversement du lien social. On en parle avec vous, Marion. Je le disais tout à l'heure, vous travaillez dans le Val-de-Marne, dans un EHPAD. Depuis combien de temps maintenant vos résidents sont-ils privés de visites comme de sorties ?
Depuis le premier discours du président. Au début, on s'est dit qu'on allait attendre. On leur a demandé de moins passer, de ralentir les visites et de pas venir à plus que il devait être maximum de personnes. Et là, après, quand il y a eu le premier discours du président, on a interdit les visites.
Dans
l'état... Mais c'est vrai que ça a été difficile à entendre pour les familles, qu'on peut comprendre. Mm-hmm. Mais voilà. Maintenant, je pense qu'ils ont bien vu avec l'ampleur que ça a pris.
Et Marion, dans l'établissement dans lequel vous travaillez, il y a des cas où il n'y en a pas ?
Il n'y en a pas pour le moment.
Est-ce que vous avez reçu, au-delà justement de cette question des visites et du confinement, des consignes en ce qui concerne l'organisation des temps de la journée, comme par exemple les repas ?
Oui, on a organisé, donc on a séparé les personnes. Avant, nos résidents, ils mangeaient tous ensemble dans une grande salle. Là, c'est par étage et on divise par aile aussi. Parce qu'on a justement notre médecin coordinateur nous a expliqué le cas de Mulhouse. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas été séparés. Et du coup, on commence à le faire déjà, même s'il n'y a pas de cas avéré.
Alors, si les personnes sont isolées dans leur chambre, on peut imaginer que ça augmente vraiment la charge de travail pour les personnels.
Alors, on les isole pas dans leur chambre, on les fait manger ensemble mais par elles. Du coup, ils sont peu et on les met à 1 mètre de distance, on respecte tout ça, mais évidemment que ça fait beaucoup plus de travail depuis de toute façon ils sont aussi beaucoup plus dans la demande, ils ont plus de visites de leurs parents, enfin de leurs proches, du coup ça fait énormément de travail. Puis nous on travaille aussi dans le stress parce qu'on a peur de nous-mêmes le ramener,
Et tout le personnel est toujours sur le pont, comme on dit, ou certaines personnes se sont arrêtées ?
Alors, certaines personnes se sont arrêtées, évidemment. Il y a quand même, on s'organise en équipe.
Alors, la question de la protection des soignants comme des patients se pose, des résidents. Mm-hmm. Est-ce que vous avez ces protections, des masques, du gel hydroalcoolique ?
On en a, mais on n'en a pas, on en a peu. On a fait partie des personnes qui ont fait leur masque, même si on sait que c'est pas une vraie protection. C'était tout ce qu'on avait, voilà. Du coup, on a fait des masques en tissu. On s'y est tous mis, animation, administration, voilà.
Et vous avez fait remonter justement ces manques. Vous avez signalé que vous n'aviez pas les dispositifs de protection.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Que d'abord, c'est la priorité, c'était les hôpitaux, mm-hmm. et après, c'était les EHPAD.
Et on vous a donné une date ?
Non.
Marion, en ce qui concerne vos gestes, qu'est-ce que vous avez changé dans vos attitudes et dans vos habitudes pour protéger les résidents ?
Je pense que on faisait déjà les gestes barrières, mais donc là, c'est devient encore plus, c'est encore plus présent. On nous rappelle toute la journée, qu'il faut bien se laver les mains, pas utiliser que la solution hydroalcoolique.
Mmh, le savon, c'est bien
après
mieux.
Lavage des mains, voilà. C'est 3 fois maximum le gel. Solution. Après, sinon, c'est lavage de mains. Et après, on prend des habitudes. Enfin, le masque, par exemple, c'est une nouveauté pour nous. On n'avait pas ça. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà perçu l'impact de tous ces changements ? On est loin quand on mange, on a moins de contact physique.
Sur la santé
et le comportement des pensionnaires, vous les trouvez comment ?
Bah, après, c'est pas autant la santé, mais c'est que voilà, on sent qu'il y a un manque. Les gens demandent pourquoi, parce qu'en plus, notre population, elle a des troubles de la mémoire, donc il faut leur rappeler parce que ils ont du mal un peu à comprendre. Et puis il y a un côté un peu qui fait peur avec les gens avec leur masque. Enfin, l'EHPAD, c'est censé être comme à la maison. Et c'est ce qu'on travaillait, sur notre établissement. Et là, c'est plus comme à la maison. On le sent qu'il y a la partie médicale, elle prend le dessus, évidemment.
On va vous retrouver, Marion. Vous restez avec nous, docteur Frédéric Béard. On entend parler du manque de dispositifs, de matériaux de protection pour limiter la contamination. Vous aussi, vous avez des informations, des remontées d'informations dans ce sens ?
Oui, bien sûr. Nous, on a des masques qui sont un petit peu disponibles au compte-gouttes et on fait extrêmement attention. À ce propos-là, moi, j'avais vraiment une idée. idée comme ça à vous partager. C'est vrai qu'on a des masques en petite quantité. Et puis, on entendait au début de votre émission des applaudissements et toute la population qui remercie les soignants. Moi, j'ai juste deux choses à rappeler quand même. C'est vrai que pour l'instant, on félicite et on nous dit c'est formidable, ils vont au feu sans masque, etc., ou avec très peu de masques. Et puis, je me rappelle aussi qu'on a voué aux gémonies, il y a quelques mois, hein, les SAMU de Strasbourg et de Mulhouse, parce qu'il y avait deux patientes qui ont eu un retard de diagnostic, et des choses comme ça. Et en fait, moi, je me rappelle aussi que les policiers, par exemple, lors des attentats de 2015, on les a tous chaleureusement félicités. Renaud en a fait une chanson, etc. Et puis après, on a vu des affrontements extrêmement violents contre les policiers. Mmh. Et c'est pareil pour les soignants. On nous dit bravo, vous êtes héroïques, et en même temps, on nous reproche beaucoup. Et en fait, je crois qu'on ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. On demande juste d'avoir des moyens de travailler, de remplir correctement ce pour quoi on est missionné. C'est difficile à entendre. Hein, ils n'ont pas de masque, mais ils vont quand même bosser. Et puis en fait, après, c'est insupportable. Ils laissent mourir des gens parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, ou de respirateurs, ou de régulateurs, ou de camions de SAMU.
Mais on sait très bien que ce n'est pas la faute des médecins s'il n'y a pas ce matériel, on le sait.
En fait, c'est bien le problème. On voudrait bien ne rien entendre, nous, ni louanges, ni critiques. On voudrait juste avoir les moyens de travailler.
Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui était demandé. Et c'était quelque chose qui était demandé depuis des mois au travers des mouvements sociaux, notamment du collectif interhôpitaux, également de la mobilisation. On s'en souvient, on en avait parlé. Quand tous les chefs de service avaient collectivement démissionné, c'était avant le Covid-19 et il y avait des vraies revendications sur l'hôpital public. Tout simplement. Quand on veut bien travailler, il faut donner les moyens aux gens de bien travailler, pas leur demander de risquer leur vie au quotidien. Marion vous retrouve. Protéger les résidents du virus, faire face à l'interdiction de visiter de la part de la famille. Comment est-ce que vous compensez? Comment vous travaillez avec ces familles?
Alors, ce que j'ai mis en... Alors déjà, on a essayé d'accompagner au mieux, on a envoyé des mails, on a appelé les 84 familles. On les a tous eu au téléphone pour bien expliquer que maintenant leurs entrées étaient vraiment interdites. Et après, j'ai mis en place une sorte de réseau social exprès qui s'appelle Familéo et avec lequel je travaille pour envoyer des photos sur l'actualité de la résidence et pour envoyer des photos aussi perso aux familles.
C'est vous qui avez improvisé ce petit système maison, on va dire?
Non, c'est pas maison, c'est quelque chose qui existait déjà, qui était prévu dans mon budget, mais ça, c'est juste que j'ai accéléré, que j'ai dû le prendre plus tôt, parce que pour que les résidents aussi, donc on peut montrer des photos aux résidents que leur famille dépose et nous leur en envoyer.
Parce que c'est évident que beaucoup de ces résidents n'ont pas de portable aussi.
C'est ça. Il y en a qui en ont, qui en ont, mais bon, c'est pas la génération portable comme nous.
Marion, vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Peut-être que vous avez un dernier message à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent. On parle de prévention, on parle du lien familial.
Vous avez dit le plus important, c'est que c'est dommage que ça se passe comme ça et que ça faisait un moment qu'on savait que dans les EHPAD, il y avait un manque de personnel ou de matériel et c'est dommage d'avoir... ça se passe comme ça. J'espère que maintenant, tout va aller pour le mieux. Mais voilà.
Bon, on va essayer de garder l'espoir et le sourire malgré la catastrophe sanitaire qui est bien là. Merci beaucoup, Marion. Oui.
Bonne journée. Je voudrais dire quelque chose.
Oui.
50% des personnes âgées dépendantes sont chez elles.
C'est le docteur Gilles Berru qui est en ligne avec nous, c'est bien ça, d'accord. Oui, sont chez elles et beaucoup d'entre elles sont isolées.
Les personnes âgées dépendantes sont, donc dépendantes comme celles de maisons de retraite, sont chez elles. Et là, on est vraiment au niveau zéro de la réflexion. Et donc, je pense qu'on parle beaucoup des EHPAD, étant donné que c'est repérable, parce que ce sont des lieux, des structures. Mais n'oublions pas que la moitié de ces personnes aussi fragiles sont chez elles.
Et elles aussi.
Aujourd'hui, on ne sait rien de ce qui se passe. On ne sait pas où en sont les équipes qui interviennent. On n'a absolument aucun renseignement sur le vécu, les possibilités des aidants, parce que quand vous avez un couple âgé avec l'un qui est dépendant avec une maladie d'Alzheimer et que c'est l'autre qui n'est pas pratiquement du même âge qui est l'aidant, qui d'habitude est aidé par les enfants, mais là avec le confinement ils ne sont plus aidés, on a sûrement des situations qui sont dramatiques, on a quelques témoignages, mais je pense qu'au niveau de la santé publique, il faut faire émerger cette question.
Merci, docteur Gilles Berru. On le comprend bien parce que pour l'instant, on a justement des retours des institutions de tout ce qui est dans la visibilité. Mais effectivement, ce qui se passe en ce moment dans les appartements, dans les maisons confinées, on ne le sait pas encore. On vous remercie en tout cas, Marion. Je rappelle que vous êtes animatrice à Bonneuil-sur-Marne dans un EHPAD. Docteur Gilles Berru, justement, d'un point de vue sanitaire, c'est essentiel ce lien de pouvoir garder le contact avec la famille par rapport à ces personnes âgées. Vous le constatez, ça a un effet sur la santé des aînés?
Ça dépend. Les premiers résultats d'études sont complètement contradictoires. Mmh. Vous avez des personnes qui, dans le confinement et avec peu d'activation, en fait, sont plus calmes. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels les personnes ne se plaignent pas trop de cet isolement parce qu'ils ont des troubles intellectuels importants. Et au contraire, l'absence de visite fait qu'il y a une sorte de calme plus grand dans l'unité, notamment dans les unités spécifiques Alzheimer. Pour d'autres cas où les gens sont intellectuellement beaucoup mieux et sont en attente de visite, c'est évidemment extrêmement douloureux. Mais il ne faut pas généraliser. Les situations sont vraiment très différentes vis-à-vis du confinement. Nous, on constate, on a pas mal d'unités spécifiques Alzheimer. On constate qu'actuellement, il y a moins de troubles du comportement. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus tout dire aussi en noir. Vous parliez de 150 EHPAD. N'oublions pas qu'il y a 7484 EHPAD en France.
Mais là, c'était uniquement pour la région parisienne. C'était 150 sur 700. Docteur Gilles Berru, il y a en tout cas quelque chose de très important à souligner. C'est que même quand on se croit en bonne santé, eh bien, on peut véhiculer, transporter le virus sans le savoir, y compris aux grands-parents. Donc, c'est vraiment un message aussi à faire passer aux autres générations.
Les deux pièges de ce virus, c'est le portage sain très fréquent, vous l'avez dit. Donc, on est très contagieux alors qu'on n'est pas malade. Et le deuxième piège, c'est que le virus reste sur les surfaces inertes pendant plusieurs heures, ce qui n'est pas le cas de la grippe, par exemple. Et donc, il y a en effet les masques dont on parle beaucoup, avec les postillons quand on parle, etc. Mais il y a aussi les poignées de porte, enfin tous les objets qu'on touche. Et ça, c'est un vrai problème avec cette épidémie.
Merci beaucoup, docteur Gilles Berru. Je rappelle que vous êtes chef du pôle de gériatrie au CHU de Nantes. Et on peut citer cette initiative, hein, boîte aux lettres numérique EHPAD.fr, EHPAD.fr, pour envoyer des messages, des dessins, des photos à un proche. Pour cela, vous allez sur la page de la résidence à contacter. Vous cliquez sur le formulaire Covid-19. 7000 résidences sont référencées et on vous mettra bien sûr tous les détails sur la page de l'émission. On va se retrouver après une petite pause. Salif Keïta, un extrait de ce titre de circonstance. Nous, pas bouger.
Nous, pas bouger.
Salif Keïta dans Priorité sur RFI, nous parlons du confinement pour les personnes vulnérables, les résidents des structures de soins, des centres médicaux éducatifs, liens bouleversés, repères chamboulés pour des patients qui précisément sont habitués à des rythmiques bien précises. Docteur Frédéric Béard, gériatre. On vous retrouve. Maintenir le lien, vous, comment ça se passe dans votre hôpital en région parisienne? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de nouveaux rendez-vous, de nouveaux rituels?
Alors, en fait, c'est vrai que c'est difficile parce que nous avons donc des patients qui pourraient être relativement vite déstabilisés. Et en fait, vraiment, il y a une équipe absolument formidable qui fait tout pour que on puisse rassurer, faire presque comme si de rien n'était, malgré l'apparition des masques, des charlottes et des moyens de protection, respecter le même rythme de vie. C'est aussi extrêmement important, malgré le fait que les équipes soient vraiment très, très durement touchées, parce que c'est émotionnellement très difficile pour les soignants. Elles sont très touchées par les dégradations de l'état, parfois rapides, et avec des patients qui décompensent très vite. Et ça demande une grosse organisation de temps pour s'équiper, pour se protéger, pour protéger les patients. Mais donc, on continue effectivement à garder le maximum, le même rythme de vie, les mêmes organisations pour rassurer et pour ne pas trop chambouler la vie de nos résidents et de nos patients. On s'organise pour donner des nouvelles aux familles. On a essayé, comme un petit peu tout le monde d'ailleurs, d'essayer de mettre en place des tablettes pour des communications de type WhatsApp, Skype ou des choses comme ça, pour essayer de maintenir le lien. C'est pas toujours évident, puisqu'on a des patients âgés qui ont du mal à comprendre un petit peu la magie de la technologie. Mm-hmm. Qu'est-ce que je regarde en face de moi? Tiens, c'est mon proche, mais c'est une photo qui bouge, c'est bizarre. Donc le substitut électronique à distance fonctionne avec des grands moments d'émotion parfois, mais pas tout le temps. Et puis on a surtout des soignants qui sont extraordinaires parce qu'ils continuent à compenser ce manque affectif et ils sont extraordinairement proches des résidents. Enfin, de proches avec le respect de quelques règles sanitaires, mais en tout cas, ils sont extraordinairement proches et ils sont là vraiment pour continuer.
Ce quotidien des résidents, excusez-moi de vous couper, docteur Béard, je voulais qu'on parle maintenant aussi du quotidien bouleversé pour les familles. Docteur Vincent Houldaoudia, bonjour. Docteur Houldaoudia, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je vous entends bien.
Parfait. Vous êtes vous-même gériatre retraité, c'est bien cela. Alors, écoutez, expliquez-nous comment ça se passe pour vous. Votre maman est presque centenaire, 98 ans. Comment est-ce que vous gardez le lien?
Alors, c'est difficile. Le lien le plus naturel, c'est le téléphone, parce que c'est traditionnel, parce que les personnes de cet âge-là n'ont pas l'habitude, comme ça a été dit, des tablettes, des WhatsApp et autres Skype, mais même le téléphone, c'est difficile parce que la présence physique n'est plus là, et j'avais l'habitude, en ce qui me concerne, d'aller régulièrement 2 ou 3 fois par semaine la visiter. Et elle me signifie bien que c'est dur d'être seule, même si les soignants sont autour d'elle. Ce n'est pas le même rapport affectif, bien sûr.
Docteur Vincent Houldaoudia, depuis combien de temps est-ce que vous ne lui avez pas rendu visite à votre maman?
Alors, ça fait un peu plus de 15 jours maintenant, parce que très justement, l'établissement a anticipé les problèmes et a fermé les portes aux visites des familles, même si c'était difficile, 8 jours avant que cela soit réglementaire pour tous les établissements.
Et ça a porté ses fruits? Aucun cas de Covid-19?
Il n'y a aucun cas pour l'instant dans l'établissement qui a été repéré.
Alors, comment est-ce que vous vous organisez justement pour ces coups de téléphone? Est-ce qu'il y a quelqu'un du personnel pour vous aider?
Alors, j'ai la chance que ma mère ait encore des capacités intellectuelles suffisantes pour avoir convenu avec elle, nous sommes 2 enfants, que nous appelons chacun notre tour à des heures bien précises. Donc, elle sait que le téléphone va sonner et elle est à côté. Ce qui lui pèse le plus, c'est plus le manque de... Enfin, c'est cette absence de contact physique, mais c'est aussi l'absence de contact, de communication, de parole avec les autres résidents dont elle avait la chance de côtoyer, de déjeuner avec eux, de pouvoir échanger, de jouer au Scrabble, et ça c'est quelque chose qui manque. Et ça me permet de revenir sur ce qu'a dit Gilles Béru tout à l'heure. N'oublions pas qu'énormément de personnes âgées dépendantes sont à domicile, seules, et elles n'ont encore moins de possibilités de contact si les gens ne peuvent plus venir les voir, en particulier les familles.
Et sur la compréhension de ce qui se passe, quand on a vécu comme cela un siècle, quand on a vécu tellement de choses, on a connu la guerre mondiale, comment est-ce qu'elle vous parle de ce qui est en train de se passer?
Elle le... elle le vit comme une catastrophe en disant que c'est une situation qui est trop dure pour elle maintenant en arrivant au bout de la vie et que c'est une situation qu'elle n'aurait pas voulu vivre, c'est sûr. Mmh. Mais en même temps, elle relativise en disant que ce qu'elle a vécu quand elle avait 20 ans et qu'elle était sur les routes de l'Exode, puisqu'elle habitait Paris à l'époque, il faut aussi relativiser, elle en a bien conscience.
Est-ce que vous la sentez fragilisée sur le plan psychologique ou vous la trouvez finalement résiliente et très forte ?
Non, je pense qu'elle essaye de cacher, mais je crois qu'il y a une atteinte profonde sur le plan psychologique. Et ce que je crains le plus, pas pour ma mère, mais pour l'ensemble des personnes dans sa situation, c'est les conséquences à long terme. C'est vrai que, comme a été dit par les autres interlocuteurs, l'approche des soignants est remarquable dans les établissements vis-à-vis des résidents, mais ce qui va se passer, c'est la marque psychologique profonde qui va rester après. Et je crains que ça entraîne des troubles psychologiques de type dépressif, de type trouble du comportement, plus important qu'on ne le pense dans les semaines et dans les mois qui suivent.
Dans les rangs du personnel, vous voulez dire, du personnel?
Non, dans les rangs chez les résidents, chez les personnes âgées.
Vous avez un sentiment d'impuissance ou aujourd'hui vous avez l'impression de pouvoir agir pour elles?
Non, je crois qu'il faut rester mobilisé, il faut garder le dynamisme que l'on peut avoir chacun d'entre nous pour les accompagner, pour ne pas abandonner la situation.
Merci infiniment, hein, docteur Vincent Houldaoudia, pour votre témoignage. Docteur Frédéric Béard, on le comprend bien, il y a le risque du virus, le risque viral, mais aussi la vulnérabilité psychologique pour des personnes qui ont vécu tellement de choses. Il va y avoir, comme le disait à l'instant le docteur Houldaoudia, l'après, même si pour l'instant on est vraiment en train de gérer le cœur de la crise, mais pour ces personnes qui ont vu tellement de choses aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de l'invraisemblable encore plus.
Oui, certainement. Je pense qu'il y aura effectivement un avant et un après. Je pense que l'après se décidera de façon différente. Je pense que ça aura des conséquences. Tout le monde se souvient de la canicule de 2003, où effectivement il y avait eu aussi beaucoup de changements et beaucoup de séquelles, hein, après, qui ont continué pour des patients qui avaient survécu à cette canicule. Je pense aussi pour les patients âgés à domicile, qu'il va falloir peut-être qu'on réfléchisse tous ensemble à savoir comment améliorer les soins à domicile. Je pense aussi aux associations de bénévoles qui font un travail formidable et qui pourraient justement organiser peut-être un suivi des patients âgés à domicile. Je pense que c'est une bonne façon de se mobiliser quand on est confiné et qu'on puisse éventuellement donner un peu de temps pour vérifier ses voisins dans son immeuble ou de prendre des nouvelles. Ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est à la portée de tous.
Garder le contact et trouver les mots, adapter les explications. Alors, on vous retrouve, Mathieu Lardjane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du FAM, foyer d'accueil médicalisé Simone Veil à Paris. On imagine que pour vous aussi, c'est une vraie préoccupation d'adapter les explications. Aujourd'hui, dites-nous, votre centre accueille combien de résidents ?
Alors, en temps normal, on a 33 résidents adultes autistes. Et actuellement, donc grâce à une grosse mobilisation des familles, nous avons donc en confinement 10 résidents.
Comment est-ce que ça s'est passé, justement, le départ des résidents et le fait que certains d'entre eux restent chez vous, Mathieu Lardjane ?
Mais écoutez, on a sollicité l'avis des familles, puisque évidemment, chacun à son niveau ne pouvait pas toujours récupérer leurs enfants. Donc effectivement, on leur a en amont, donc nous, dès le week-end qui précédait, donc le mardi de confinement, on leur a expliqué que très probablement on allait être sur une situation très très binaire, où en gros, soit leur enfant restait pendant les quelques semaines avec eux, soit sinon il restait dans notre foyer, mais qu'ils ne pourraient pas forcément avoir de lien physique avec eux. Donc c'est vrai qu'ils ont été assez exceptionnels, puisqu'ils ont dû prendre une décision très rapidement. Et donc effectivement, 2/3 des familles ont plutôt préféré récupérer leur enfant avec eux pour cette période compliquée.
Alors voilà. Ça veut dire que pour ceux et celles qui sont restés au centre, ils ignorent quand ils pourront retrouver leurs proches. Comment ça s'organise la vie chez vous en période de confinement ?
Alors ça a pu s'organiser vraiment de manière effectivement très cloisonnée grâce justement au soutien des familles, puisque ce qui est possible quand on a 10 résidents n'était pas forcément possible avec 30. Donc nous, avec 10 résidents, ça nous a permis de mobiliser une équipe sur place en confinement. Donc nous, ils sont 7 jours sur 7 auprès des résidents. Là, je suis avec eux au foyer cette semaine. Et donc, on a une équipe de professionnels qui dorment sur place et qui est relevée le lundi. Voilà, pour justement permettre aux résidents de ne pas être confinés en chambre. En fait, on a fait le choix plutôt de nous confiner professionnels dans le foyer, ce qui permet de maintenir des activités. Et donc, on essaie de garder un rythme assez repérant et structurant pour nos résidents. Et ça tourne plutôt bien pour le moment. Voilà, avec aussi beaucoup d'explications sur des supports adaptés aussi, pour que les résidents comprennent pourquoi, évidemment, parce que c'est pas toujours facile pour tous, avec parfois de la déficience intellectuelle ou des personnes qui sont non-verbales. Donc il a fallu pour nous trouver des supports et des outils adaptés pour expliquer. Alors, beaucoup de pictogrammes, notamment aussi on s'est pas mal appuyé sur un site qui s'appelle Santé BD, qui explicite les choses de manière assez claire, lisible et visuelle pour les jeunes. Et donc c'est vrai que les professionnels et les familles ont pu s'appuyer sur certains supports pour expliquer au mieux aux résidents l'état actuel de la situation.
Est-ce qu'il y a malgré tout beaucoup de pourquoi ? Pourquoi on change mon rythme ? Pourquoi je ne vois pas telle personne ? Pourquoi tel personnel reste dormir ici ? Est-ce qu'il y a aussi tout ce foisonnement de questions, bien sûr, chez vos résidents qui ont ce type de raisonnement ?
Oui, ça soulève des questions, mais du coup, effectivement, pour le moment, en tout cas, on est plutôt nous dans un discours assez rassurant, en leur disant qu'on est en sécurité à l'intérieur et que du coup, effectivement, actuellement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on leur donne de la prévisibilité aussi, puisque nous, on essaye, en tout cas semaine après semaine, de leur présenter les professionnels qui vont arriver le lundi, de leur présenter aussi les activités qu'ils vont faire la semaine suivante, mais aussi chaque jour. Donc on reste sur des choses assez structurées et on essaie de mettre de la prévisibilité dans la mesure du possible auprès d'eux.
Mathieu Lardjane, vous redonnez des repères, malgré tout, votre équipe, vous-même, comme tout le monde, on est face à un petit peu un grand inconnu. Comment on fait justement face à cette situation paradoxale pour garder cette potentielle anxiété pour ces personnes qui en ont vraiment pas besoin ?
Écoutez, vraiment, hein, nous, on est sûr vraiment des choses, rendre les choses prévisibles et compréhensibles aussi pour nos résidents, hein, via des supports adaptés, puisque ici, on a des personnes qui communiquent via pictogramme, d'autres qui sont lecteurs, d'autres qui ne le sont pas. Donc, l'enjeu pour nous, ça va être vraiment, comme d'habitude, d'ailleurs, hein, d'adapter et d'individualiser à chacun, en fait, la communication qu'on va faire. Hein, voilà.
Et justement, est-ce que ça donne lieu à des ateliers particuliers, à des créations particulières qui sont liées à cette situation, pas comme les autres ?
Oui, bah par exemple, nous on a relancé un peu le blog de l'établissement qui permet, alors c'est assez chouette parce que du coup les familles et les jeunes qui sont à l'extérieur nous envoient des photos et des descriptions un peu de leur journée et nous également on peut publier sur le blog des photos et des textes sur ce qu'on fait avec les jeunes ici. Donc oui, par exemple, ça donne lieu à vraiment, on réutilise certains supports qui étaient pas utilisés comme ça à la base pour effectivement communiquer vers l'extérieur, et enfin de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, effectivement.
Parce qu'on imagine qu'il y a les familles qui manquent, mais il y a aussi les copains qui sont partis qui manquent aussi.
Exactement, bah heureusement qu'on a, on va dire, pas mal d'outils de communication maintenant, ce qui permet de garder du lien, hein, le téléphone, on a des appels réguliers, donc c'est vrai que ça, on garde du lien, on est très souvent quand même en lien avec les familles à l'extérieur via le téléphone. Ouais.
Mathieu Lardjane, dernière question sur les fameuses mesures barrières, comment ça se passe chez vous ?
Bah écoutez, sur les mesures barrières, nous on a eu la chance quand même déjà de recevoir des équipements de sécurité de la part du département. Et ensuite les mesures barrières qui sont, on va dire, le lavage de mains, les distances de sécurité, etc. Ça a été expliqué, pareil, avec des supports assez visuels, hein, la plupart du temps. Donc écoutez, nous ça se passe plutôt bien et on essaye d'être dans vraiment de l'ordre désormais du réflexe et de la systématisation, hein, auprès des jeunes. Donc voilà, ça, peu à peu, et là ça fait déjà 10 jours, donc maintenant les réflexes commencent à vraiment être bien acquis. Donc on continue, hein, faut beaucoup de répétitions, mais ça fonctionne plutôt bien. Hein, voilà, que ce soit d'ailleurs au niveau des professionnels ou des résidents.
Alors la crise pour tout le monde, avec des bonnes et des mauvaises surprises pour certains. C'est quoi, vous, votre philosophie aujourd'hui, Mathieu Lardjane, par rapport à ce qui est en train de se passer ?
Bah écoutez, dans la mesure où on n'a pas le choix, on va faire de cette situation quelque chose d'assez positif. Donc on en profite pour faire des choses un peu nouvelles. On investit les résidents aussi dans le quotidien, hein, c'est-à-dire qu'ils sont complètement mis à contribution, les résidents, pour aussi nettoyer le foyer avec nous. Donc écoutez, nous on est vraiment dans une implication dans le quotidien des résidents. Donc du coup, ça fait sens aussi par rapport à la situation. Ils comprennent bien que en ce moment, il faut être très précautionneux. Et d'ailleurs, voilà, comme je vous disais, ils font les tâches de ménage, de linge avec nous. Ça nous prend pas mal de temps, puisqu'effectivement, on a dû aussi suspendre certaines prestations pour respecter le confinement. Donc, écoutez, c'est très, très concret, hein, du coup, avec les résidents. Hein. On arrive à rendre les choses très concrètes. Et puis, par la force des choses aussi, on avance et on essaie de rester très positif. Et voilà, nous, on a la chance d'avoir des familles qui sont très soutenantes et aussi des professionnels et des collègues qui sont tous très mobilisés. Donc, c'est vraiment un gros sentiment d'entraide et de solidarité, là, sur place et même avec l'extérieur.
Hein. Merci beaucoup, hein. Sacrée expérience en tout cas, Mathieu Lardjan, merci beaucoup.
Merci.
Bravo et bon courage à toute l'équipe de ce foyer d'accueil médicalisé Simone Veil à Paris. Un bonjour chaleureux, bien que confiné à tous les résidents de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour celles et ceux qui voudraient des informations complémentaires, hein, le site gouvernement.fr a créé une page dédiée Info Coronavirus spécialement pour les personnes en situation de handicap, pour répondre aux questions sur les soins, les démarches, les travailleurs médico-sociaux. Bref, foire aux questions également, beaucoup d'informations sur ce site du gouvernement avec cette page dédiée. On arrive à la fin de notre échange, docteur Frédéric Béard. On a bien sûr perçu l'extrême difficulté de certaines situations. Sans vouloir, on le dit encore, pour autant créer d'angoisse, sans nier la réalité. Docteur Béard, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui ?
Moi, je suis surtout extraordinairement marqué par l'extraordinaire volonté des équipes d'aides-soignants, d'infirmiers, paramédicaux divers qui n'hésitent pas à continuer leur travail. Je suis touché par leur humanité hein, vis-à-vis de nos patients âgés. Ils continuent à être extraordinairement bienveillants et à faire comme si de rien n'était, de rien changer dans leur prise en charge. On voit bien qu'il y a trois populations, en fait. Hein. Il y a les équipes de soignants pour qui c'est extrêmement difficile de voir des patients décompensés très très vite parfois. Donc un énorme merci aux équipes. Pour les familles aussi, moi j'ai une grande pensée pour les familles qui sont coupées de leurs proches et qui ne sont que obligées de se remettre à nous pour prendre en charge leurs parents. Et donc un énorme merci de leur confiance et je veux les rassurer, on fait tout pour que tout se passe bien pour leurs proches. Et puis pour les patients, on fait comme si tout allait bien et on essaye au minimum de les inquiéter. On essaye de prolonger, de continuer la vie et de prendre en charge même tout ce qui n'est pas Covid-19, hein, les douleurs, les autres problèmes de santé, tout voilà, et tout ce que les familles ne peuvent plus amener, hein, parce qu'on a beaucoup de familles qui nous apportent énormément dans la visite de leurs proches. Là, on est obligé de compenser et les équipes font un boulot magnifique là-dessus et vraiment, je leur tire mon chapeau. Voilà, inquiet, je ne sais pas combien de temps ça peut tenir, mais je suis bien persuadé qu'on a un système formidable qui va réussir à tenir.
Docteur Frédéric Béard, tout à l'heure vous disiez les applaudissements, les bravos, j'en ai marre. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de vous dire bravo. Hein. Ça m'empêchera
pas. Vous
voulez autre chose.
Je pense qu'il faut ni aller dans un sens ni dans un autre. Je n'en ai pas marre. Je suis extrêmement touché, bien évidemment, comme tous les soignants, par cette gratitude. Mais voilà, si on avait tous les moyens nécessaires pour bien travailler, je suis même pas sûr que vous auriez à applaudir. Et ça, voilà, c'est tout.
Non, si, je pense qu'on applaudirait quand même, parce qu'on voit que, au travers de la maladie, d'ailleurs, on n'a pas attendu dans certains milieux aujourd'hui pour vous applaudir. On voit que ce qui est en train d'être fait, c'est absolument phénoménal. On voit que des personnes qui étaient dans la rue, qui ont même pris parfois des gaz lacrymogènes dans la figure, aujourd'hui se mettent en danger pour les autres. On voit qu'elles quittent leur famille pour s'occuper des autres. Donc vraiment, bravo. Et docteur Frédéric Béard, pour tout ce que vous faites aussi, pour maintenir ce lien qui est absolument essentiel. Encore une fois, bravo.
Et bravo aux équipes surtout.
Merci
bravo
à vous.
À tout le monde.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de service à l'hôpital Dupuytren à Dravel dans l'Essonne. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. À C'est Tout, Samaké, Ophélie, Lassène, un grand merci à L2. Didier Bleu, Didier Chérouse, ils sont en face de moi et je leur fais des coucous parce qu'on voit plus grand monde, hein, donc on garde le lien là aussi. Demain dans Priorité Santé, nous allons parler des troubles psychiques en période de crise sanitaire. Traiter bien sûr les troubles suscités par l'actuelle pandémie de Covid-19, les angoisses, et puis poursuivre aussi le suivi des patients pris en charge en santé mentale. Vos questions 33 84 22 75 75. À demain, d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et si vous êtes en zone de confinement, restez chez vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous, à chaque étape.
C'est pas du vent,